c'est vraiment le passage de la génération de la pop music à la génération de la new wave et du punk qui conteste, qui balaye complètement les sensibilités précédentes. En politique, c'est le coup de tonnerre que constitue en Occident, et notamment pour la gauche, pour les gauches occidentales, la diffusion des livres de Solzhenitsyn, dont on voit des traces extrêmement profondes dans l'évolution sur quelques mois ou même sur quelques semaines de journaux importants comme Le Nouvel Observateur ou Libération. La fin de la guerre du Vietnam, évidemment, qui facilite ces évolutions. C'est soudain, en un an ou deux, les grandes AG des mouvements d'extrême-gauche dans les universités qui se vident, des sensibilités qui changent. J'ai fait une thèse sur l'histoire de l'informatique en France, en essayant d'étudier simultanément trois aspects très différents qu'on n'étudie pas avec les mêmes outils. L'histoire d'une science, d'un ensemble académique de recherche, d'enseignement, de travaux scientifiques. L'industrie, donc l'histoire de Bull, d'IBM France, des entreprises nouvelles qui ont pu se créer. Et l'histoire des politiques gouvernementales dans les domaines de l'électronique et de l'informatique, avec le plan calcul, mais pas seulement le plan calcul. Alors, je remonte rapidement dans le temps. Les débuts de l'informatique, on le sait, remontent à la Deuxième Guerre mondiale ou à l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la convergence de deux mouvements d'innovation. Rapidement, mon exposé s'articulera en deux parties. Je commencerai par exposer des dynamiques d'innovation. Et ensuite, je me focaliserai de façon un peu plus étroite sur l'émergence d'une science informatique. Donc, l'histoire informatique, ça commence par une certaine convergence de deux mouvements d'innovation. D'une part, des recherches scientifiques, essentiellement mathématiques, avec des réflexions sur la logique des machines et, secondairement, sur le calcul. Et, d'autre part, des progrès techniques dans l'industrie mécanographique. Ça, on le sait moins. C'est moins évident. Autant les recherches scientifiques ont été illustrées par des personnalités centrales comme Turing, von Neumann et d'autres, qui sont devenus des héros historiques, autant c'est beaucoup plus obscur, beaucoup plus quotidien, ce qu'on trouve dans l'industrie mécanographique qui cherche à la fois à améliorer la performance et le rapport performance-prix de ces machines, tout en évitant d'effrayer le client, généralement un gestionnaire qui s'intéresse absolument pas à la technique en elle-même. Donc il s'agit d'un phénomène évolutif vers plus de performance et surtout plus de fiabilité. Et ça, c'est un problème fondamental que nous retrouverons tout au long de cette histoire, la recherche d'une meilleure fiabilité. En 1946, on peut dire que c'est le véritable commencement de cette histoire, si on cherche des dates clés, puisque 1946, c'est la publication du rapport von Neumann, du deuxième rapport von Neumann, qui, en fait, définit ce que devra être une machine à calculer électronique dans le futur. Le rapport von Neumann définit et décrit ce que devra être un ordinateur 3 ans avant la mise en service des premières machines de ce genre. 1946, c'est aussi, de façon concomitante, une école d'été tenue à l'université de Pennsylvanie, endroit où a été développée la machine électronique ENIAC et où les créateurs de l'ENIAC sont en train de développer un ordinateur qui s'appelle EDVAC. Cette école d'été, comme le rapport von Neumann, est très importante dans la mesure où les quelques dizaines de personnes qui y ont participé, venues surtout des États-Unis, mais aussi du Canada, d'Angleterre, d'Australie, pas de France, personne, rentreront chez eux avec une certitude lumineuse, hein, ça apparaît dans leur mémoire. Il y a une machine entièrement nouvelle, d'une structure qui est parfaitement adaptée à tout ce que l'électronique offre comme possibilité, au moins potentiel. Ça s'appelle le Stored Program Computer, l'ordinateur à programme enregistré. Cette idée de programme enregistré par rapport aux programmes câblés ou programmes sur carte, programmes sur support matériel. Cette idée de programme enregistré est une innovation de rupture, une innovation essentielle, c'est l'invention du logiciel. Et à partir de là, tous ces gens retournent dans leurs universités, dans leurs organismes de recherche et réunissent des fonds, obtiennent des crédits et se lancent dans la construction d'un ordinateur. Ils réunissent aussi une dizaine de spécialistes. C'est pas de très grosses entreprises, ça coûte un peu cher, ça prend du temps, ça prend toujours plus de temps qu'on ne croit. On invente à l'époque, un peu ironiquement, ce qu'on appelle le coefficient de von Neumann. Le coefficient de von Neumann, c'est que quand un professeur d'université ou un directeur de recherche dans un laboratoire programme la construction d'un stored program computer, il dit toujours que ça va prendre un an et 100 000 dollars, et en réalité, ça prend 2 ans et 400 000 dollars. C'est le coefficient de von Neumann. Et, bref, s'ouvre dans ces conditions ce que j'ai appelé une période pionnière, la période pionnière de l'informatique qui va durer une dizaine d'années, jusque dans la deuxième moitié des années 50. Et dans cette période pionnière est caractérisée par le fait que les ordinateurs sont construits à l'unité dans des universités et dans des centres de recherche. Ce sont des appareils expérimentaux. Et ce sont aussi de grands équipements de calcul. L'idée, c'est parfois de faire des maquettes, mais c'est surtout de doter l'université, de doter mon laboratoire d'une machine à calculer très performante qui permettra de résoudre des problèmes qu'on n'osait même pas aborder jusque-là, comme des problèmes d'études de mécanique des fluides, touchant la météorologie, par exemple. L'idée, c'est aussi, à travers ces instruments puissants, d'intéresser des clients, des collègues qui peuvent être des physiciens, des mathématiciens et autres, pour appuyer le centre de calcul en question et lui permettre d'obtenir ensuite plus de crédits et ainsi par accumulation de continuer dans une dynamique d'innovation. Parce que dès que les premiers ordinateurs commencent à être montés, même pas à être mis en œuvre, on a déjà des plans pour faire des machines bien mieux, parce qu'entre-temps, on s'est aperçu de toutes les limitations qu'on avait dans les plans initiaux. Bref, se développent autour de ces ordinateurs des centres de calcul, qui sont des services, qui font du calcul à façon pour les collègues universitaires et bientôt pour des clients extérieurs, notamment pour les atomistes. Autour de ces centres de calcul se développent des recherches, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas si simple à programmer ces machines et qu'il faut essayer de réfléchir sur les méthodes de programmation, sur les meilleures méthodes pour approcher des problèmes de calcul. On ne calcule pas de la même façon sur un ordinateur et sur des séries de petites machines à manivelle qu'on utilisait dans les bureaux de calcul auparavant. Et en même temps que les recherches, on développe des enseignements. Parce que des étudiants arrivent qui sont intéressés par ces machines et que l'industrie commence, ou on sent que l'industrie va commencer à avoir besoin de spécialistes capables de programmer des ordinateurs. Les armées encouragent très vivement ce mouvement, et souvent ce sont les crédits militaires ou les crédits de grandes administrations, en France l'EDF par exemple, qui soutiennent le développement de ces centres de calcul universitaires et de ces enseignements et de ces recherches face à des conseils de faculté qui sont plutôt réticents à voir ces grosses machines s'installer dans des laboratoires de mathématiques. La seule idée d'un laboratoire de mathématiques est parfois aberrante à l'époque, vers 1950. Ces ordinateurs pionniers, à partir de 1950-51, l'industrie s'en inspire. L'industrie, quelques entreprises se lance dans le développement de séries commerciales et les premiers ordinateurs commerciaux Ferranti ou Univac sont annoncés en 1951 et en 1960 un pays comme la France par exemple est déjà équipé de l'ordre de 200 ordinateurs en France début 1960. À ce moment-là, le marché bascule. que vers 1960, la majorité des ordinateurs étaient utilisés pour le calcul scientifique dans des centres qui, dont la vocation était technique ou scientifique. Ce marché bascule vers l'informatique de gestion. C'est-à-dire que les ordinateurs qui, entre-temps, sont devenus moins coûteux, moins encombrants, un peu plus faciles à programmer, c'est ce qu'on appelle la deuxième génération d'ordinateurs, commencent désormais à remplacer les machines traditionnelles électromécaniques à cartes perforées, ce qu'on appelait la mécanographie. Et à partir de ce moment aussi, c'est l'industrie informatique qui devient le maître d'œuvre des innovations. C'est l'industrie informatique, les constructeurs comme IBM, Mivac et d'autres, qui sont les principaux initiateurs des innovations, surtout dans deux domaines. Premièrement, le domaine des composants, aussi bien les composants logiques que les mémoires. Et là, le rythme du progrès est déterminé par les investissements des constructeurs et par leur politique de cycle de produits, des cycles de vie des produits. C'est IBM, Texas Instruments, Intel, etc. L'industrie mène aussi l'innovation, imprime son rythme aux innovations dans un autre domaine qui est celui de l'architecture de machines. L'évolution des mainframes, l'invention des mini-ordinateurs, qui se définissent avant tout par une architecture économique et innovante et performante, et aussi dans une large mesure la conception de superordinateurs, même si là l'université continue à faire des expériences, et ce sont des entreprises comme IBM, Digital Equipment, Control Data, Cray pour les superordinateurs, et bientôt Xerox, Apple, Sun pour d'abord les mini, ensuite les micro-ordinateurs qui en sont bien souvent les descendants. Ces progrès sont prévus, programmés, hein, cette loi de Moore en est une modélisation, et ces progrès constituent une dynamique permanente qui conditionne tout le reste et qui aboutit par exemple à la miniaturisation des appareils, puisque en 1972, si je ne me trompe, est commercialisée la première calculette programmable, le Hewlett-Packard 65, qui bien avant les micro-ordinateurs fait venir une certaine capacité de programmation, non seulement au domicile des particuliers, mais dans leur poche. Et cet appareil est en même temps un débouché, une demande qui va tirer la production de composants, la production de puces vers la production de grande masse et donc vers la baisse des coûts et donc dans un cercle vertueux, un cycle permanent de baisse des coûts avec des performances croissantes et donc de conquête de nouveaux marchés. Et c'est ainsi que l'ordinateur évince peu à peu les machines traditionnelles à traiter l'information. Alors, d'abord les grands calculateurs, puis les machines mécanographiques à partir de 1960, puis toutes les machines d'automation et de contrôle industriel avec les mini-ordinateurs. Et quand une fiabilité suffisante aura été conquise, ce sera autour des centraux de commutation téléphonique. Ça donnera naissance à la commutation digitale. Et à la révolution du téléphone dans les années 70. Et pour finir, ce sont les machines à écrire et les appareils de jeu qui vont être remplacés par des ordinateurs. Donc j'en finis avec cette histoire qui est bien connue pour me tourner vers la recherche académique. Alors, si l'industrie mène le jeu dans l'innovation en matière de composants et d'architecture, la recherche académique, universités, grands organismes, va apporter des innovations dans un certain nombre de domaines. Je dirais trois ou quatre domaines principaux. Bon, d'abord, la recherche académique continue à expérimenter des architectures radicalement nouvelles de machines, qu'on ne sait d'ailleurs pas très bien programmées, notamment certaines machines massivement parallèles, comme les machines Iliac, qui ont été construites à l'université d'Illinois à la fin des années 60, et plus tard, et en France, et à l'INRIA, des machines comme Isis ou Marisis. Mais surtout, le monde académique, et là je parle désormais surtout du monde académique américain, puis les autres suivent ou accompagnent, plus ou moins, dans quelques domaines, d'abord dans les méthodes de programmation. C'est en effet toujours dans le monde universitaire, dans le monde de la recherche, qu'on développe une discipline ancienne, mais qui a eu une expansion sans précédent grâce à l'informatique, c'est l'analyse numérique. En gros, les façons, les méthodes pour optimiser les procédures de calcul ou de traitement de l'information en fonction des machines. Et c'est les progrès dus à l'analyse numérique participent aussi à l'augmentation de performance des ordinateurs. Comment trouver un algorithme qui permet à la machine de calculer plus vite au lieu de l'encombrer avec des centaines de lignes de logiciels. Par ailleurs, toujours dans ce chapitre des méthodes de programmation, les recherches menées dans le monde académique visent à attaquer un problème crucial pour toute l'informatique et au-delà pour tout le système technique, les fusées, les télécommunications, les appareils de toutes sortes, le traitement de l'information dans le secteur tertiaire et les administrations. Ce problème crucial, c'est la fiabilité du logiciel, ou plutôt le manque de fiabilité du logiciel. Et ça, c'est une chose que nous connaissons tous, parce que nos ordinateurs continuent à planter. Et ça n'est jamais parce que le matériel tombe en panne, c'est parce que deux instructions dans le logiciel se sont télescopé et que l'ordinateur ne sait plus comment sortir d'une boucle, d'un cercle vicieux. Ce problème de fiabilité du logiciel a été analysé, affiché et mis au premier plan des priorités lors d'une conférence tenue en 1968 à Garmisch-Partenkirchen qui a vraiment établi un véritable programme de recherche en même temps qu'il tirait la sonnette d'alarme sur ce goulet d'étranglement, ce verrou qui empêcherait de toute façon l'informatique de progresser ou de gagner plus de marché si on ne lui apportait pas des solutions. Autre domaine où la recherche académique apporte des contributions essentielles à l'informatique, ce sont les interfaces homme-machine. Alors, l'exemple le plus connu, peut-être, c'est la souris qui a été mise au point au milieu des années 60 par Doug Engelbart, je ne prononce pas bien son nom, au Stanford Research Institute, où ce monsieur faisait partie d'un programme pour augmenter l'intellect humain, augmenter les potentialités intellectuelles humaines grâce à l'utilisation des machines et grâce à une meilleure interaction entre la machine, entre l'ordinateur et l'utilisateur. Ces recherches sur les interfaces homme-machine, liées d'ailleurs au progrès de périphériques matériels comme la souris ou le crayon optique, c'est des domaines comme la reconnaissance vocale. Pour essayer de parler directement à l'ordinateur, on commence à avoir des claviers sur les ordinateurs, mais on veut aller plus loin. Dictée à l'ordinateur, la reconnaissance des formes, avec des recherches civiles ou militaires un peu dans tous les pays, y compris en France, où on met au CNRS, à l'époque, on met au point une machine à lire, sous la direction d'un savant assez pittoresque, qui s'appelle René de Possel. Et c'est l'imagerie, c'est les premières recherches en imagerie, grâce au fait que dès le milieu des années 60, on commence à installer des écrans sur les ordinateurs. En tout cas, sur les ordinateurs des laboratoires. Et ça, ces travaux sur les interfaces homme-machine, qui sont menés au départ dans des centres académiques comme le Stanford Research Institute ou à Berkeley ou MIT, vont ensuite diffuser d'abord dans des centres de recherche industrielle comme le Xerox Park avec les fameuses machines de Xerox qui n'ont jamais abouti sur le marché, mais avec Apple qui ont réussi à récupérer les innovations du Xerox Park et à les transformer en Lisa puis en Macintosh. Et tout cela est repris ensuite par les grands groupes comme IBM et avec la connexion IBM-Microsoft. Autre domaine où le monde académique a un rôle d'innovation essentiel, c'est le développement d'une informatique non numérique ou de diverses formes d'informatique non numérique. Je vous donne deux exemples, deux ensembles d'exemples. D'abord, les besoins scientifiques, les besoins des scientifiques en matière de documentation et de développement de bases de données en chimie, en archéologie, dans tous les domaines, poussent les scientifiques à étudier des problèmes logiques et linguistiques fondamentaux derrière des problèmes plus ou moins pratiques de gestion de bases de données, d'interrogation et de classification. Et c'est par exemple en France la création par un archéologue, Jean-Claude Gardin, d'un laboratoire d'automatique documentaire au CNRS vers 1960 et qui deviendra au début des années 70 le laboratoire d'automatique documentaire et linguistique. Et autre exemple, c'est le développement de systèmes d'intelligence artificielle. Alors, j'y ai déjà fait allusion avec les questions de reconnaissance des formes, mais aussi la recherche dans les années 60, et ça se développe dans les années 70, de systèmes experts. On a les premiers développements d'aide au diagnostic médical avec les premiers congrès d'informatique médicale à Toulouse et à Grenoble dans la deuxième moitié des années 70, dans la deuxième moitié des années 60, pardon. Un domaine sur lequel on s'excite beaucoup à l'époque, c'est la traduction automatique. Alors, la traduction automatique atteint un haut niveau de, comment dire, pas de développement, mais de consommation de crédit au début des années 60. Et puis un coup d'arrêt y est mis en 1965 avec le rapport Barilel qui explique que la traduction automatique, enfin qui constate que la traduction automatique n'a pas tenu ses promesses, que c'est un domaine qui exigerait beaucoup de recherches fondamentales en amont pour pouvoir être reprise de façon plus rigoureuse avec un peu plus de chances de succès. Donc le meilleur moyen d'être efficace, c'est de faire un long détour par les recherches amont, par les recherches fondamentales. Donc une affirmation d'un rôle de la vraie recherche pure et non pas des bricolages pour des recherches appliquées non applicables. Et on en est encore là dans les années 70, à la fin desquels on reprend ces programmes de recherche de façon un peu plus modeste, en visant de plus en plus non pas la traduction automatique, terme né dans les années 60, dans les années 50, mais la traduction assistée par ordinateur. Alors toutes ces innovations, les plus importantes pour nous peut-être, sont les nouvelles façons d'utiliser les ordinateurs. Peut-être ce que le monde académique apporte de plus important, de plus fondamental pour tout le système, ce sont non pas de nouvelles façons de faire des ordinateurs, mais de nouvelles façons de les utiliser. Et il ne s'agit pas simplement d'applications. C'est l'interactivité, l'utilisation d'un ordinateur où l'on... On tape quelque chose sur le clavier et on voit une réponse apparaître sur l'écran, quand il y a un écran, ou sur la télétype, quand il y a une imprimante. Cette façon d'utiliser un ordinateur s'oppose complètement à la procédure par batch, au traitement par lot, qui est utilisé à l'époque de façon courante dans la mécanographie et l'informatique de gestion. Et cette informatique interactive est née, on peut le dire, essentiellement, originellement, au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, autour d'un ordinateur temps réel conçu pour les besoins de la défense, pour servir de prototype au système d'alerte radar dans le cadre de la guerre froide, l'ordinateur Whirlwind, ce qui signifie tourbillon, donc une machine très rapide. Et ces expériences, ces savoir-faire, ces sensibilités nouvelles à une informatique différente vont ensuite essaimer vers des entreprises qui s'appellent Digital Equipment, General Electric et même plus tard IBM. L'une des possibilités nouvelles offertes par les ordinateurs rapides, éventuellement temps réel, c'est la possibilité de partager le temps de calcul, le temps de traitement d'un ordinateur entre plusieurs clients, entre plusieurs utilisateurs, chacun ayant sa console, son clavier, son écran, et ayant l'impression que tout l'ordinateur travaille pour lui, alors que l'ordinateur est tellement puissant qu'il peut travailler en parallèle pour plusieurs utilisateurs. Donc c'est la naissance du time sharing au milieu des années 60. Ce time sharing répond à un besoin pratique. Il s'agit au départ d'enseigner la programmation, c'est le cas au collège de Dartmouth, d'enseigner la programmation à plusieurs dizaines d'étudiants à la fois, l'ordinateur leur corrigeant leurs fautes ou leur permettant en tout cas de tester la qualité de leur logiciel. Le logiciel tourne-t-il jusqu'au bout ou plante-t-il au milieu ? Et le time sharing répond ensuite aux besoins commerciaux des constructeurs et des grandes organisations qui sont de certaines grandes organisations. Les besoins commerciaux des constructeurs, c'est de pouvoir vendre du temps de calcul sur des terminaux. Quant aux grandes organisations, on trouve dès cette époque de grandes organisations qui sont naturellement structurées en réseau. Je pense à la SNCF, par exemple, au chemin de fer, ou aux grandes compagnies aériennes avec leur système de réservation automatique, et au réseau bancaire ou au réseau des compagnies d'assurance. Et ce sont ces grandes organisations qui sont les premières à financer le développement de réseaux informatiques. L'armée aussi, bien sûr. Alors, je donne ici un exemple. C'est le réseau ARPANET, financé par l'agence de recherche avancée du département de la défense américaine. Alors là, c'est 1970, fin 1970. Un an plus tôt, vous auriez vu seulement ce petit réseau connectant quatre centres. En 1969, c'était le Stanford Research Institute, Berkeley, UCLA à Los Angeles, plus la RAND Corporation et la société SDC, donc la RAND. En 1970, on a connecté ce réseau aux grandes universités, aux grands centres de recherche informatique de la côte Est, en passant par l'université d'Illinois, là où je viens de dire qu'on développait l'ordinateur parallèle ILIAC. Et donc ça, c'est le début d'ARPANET, le début du réseau qui ensuite donnera naissance à Internet quand il absorbera d'autres réseaux. Ces innovations ont donc été conçues, vous le voyez, au cours des années 60. Leur développement et leur diffusion dans l'industrie, dans la société, s'effectuent au cours des années 70 et parfois, bien sûr, se poursuivent jusqu'à nos jours. Alors, ce qui est important, c'est de noter qu'en se combinant ensemble, toutes ces innovations très variées transforment profondément l'informatique telle qu'on la connaissait jusque-là. Et on peut se poser la question de cette expression toute faite qu'on a beaucoup entendue, la révolution informatique. S'agit-il d'une révolution ou d'une évolution ? À mon avis, dans les années 50, contrairement à ce qu'on a dit bien souvent, on ne peut pas considérer qu'il y a eu révolution informatique. Il y a eu une entrée des composants électroniques dans les machines à traiter l'information. Au cours des années 50, il paraissait tout à fait naturel à des constructeurs comme IBM, Bull ou autres, de remplacer les pièces détachées mécaniques ou électromécaniques par des composants électroniques qui étaient beaucoup plus rapides et même souvent plus fiables, puisqu'ils s'usaient, il n'y avait pas l'usure mécanique des roues dentées ou des électroaimants. Mais ce changement était bien accueilli, ce n'était pas du tout une révolution, un bouleversement, un bousculement. Ce qui a déjà plus nettement bousculé le monde du traitement de l'information, c'est l'arrivée du programme enregistré, donc vraiment des ordinateurs et de la programmation logicielle, du software. Pourquoi ? D'abord parce que ça bouleversait l'architecture des machines, la conception même des machines, et ensuite parce que, aussi bien chez les constructeurs que chez les utilisateurs de l'informatique, les techniciens en blouse grise qui étaient habitués à piquer des tableaux de connexion ou à faire des branchements de fils, de câbles sur des machines mécanographiques, ont dû soit faire un sérieux effort d'apprentissage pour apprendre le langage machine ou la programmation en assembleur et bientôt des langages évolués comme COBOL ou FORTRAN, COBOL surtout. Mais souvent, ces techniciens en blouse grise ont été remplacés par des ingénieurs et par une catégorie d'ingénieurs nouvelles qui n'était pas du tout évidente, des ingénieurs mathématiciens. On a eu d'ailleurs beaucoup de mal à faire émerger ce terme à la fin des années 50, qui a été remplacé par celui d'analyste-programmeur. Donc là, on a déjà un certain bouleversement dans les professions. Et d'autre part, et surtout, l'informatique reste essentiellement organisée selon les procédures du traitement par lot, du batch processing, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Et au fond, le traitement de l'information avec les gros ordinateurs, dans les années 50, 60, encore au début des années 70, reste organisé dans une conception profondément taylorienne de division du travail, de centralisation, de traitement par lot. C'est un modèle qui est à la fois technique et économique. Un modèle technique avec les gros ordinateurs, les mainframes, et la technique du batch, du traitement par lot. Et c'est un modèle économique aussi, fondé entre autres sur ce qu'on a appelé la loi de Grosch, suivant laquelle on a un bien meilleur rapport performance-prix avec un gros ordinateur central qu'avec plusieurs petits ordinateurs plus ou moins décentralisés, dont la somme des puissances serait équivalente à la puissance du gros. Il est plus avantageux d'avoir un ordinateur central. Et le principal champion de cette informatique, c'est bien sûr IBM, avec son cortège d'émulateurs, Bull, ICL, etc. Et on le sait bien, loin d'être remis en cause par les innovations d'après-guerre, par l'électronique, par le programme enregistré, IBM a au contraire réussi à exploiter ces innovations pour son plus grand profit, et IBM a réussi à affirmer encore sa domination sur le marché, sur l'industrie de l'informatique. Or, qu'est-ce qu'une révolution qui n'aboutirait qu'à conforter la puissance dominante ? Donc, IBM posait d'ailleurs la question au milieu des années 50. Il y avait des brochures publicitaires qui s'appelaient « Evolution, not revolution ». Et l'idée, c'était bien sûr de rassurer les clients en leur disant qu'on n'allait pas bouleverser leur savoir-faire ou réduire à néant leurs investissements en traitement d'information. Mais je crois que cette idée évolution et non révolution reflétait profondément le vécu des constructeurs informatiques. Or, les innovations qui, depuis les années 60, ont mûri, notamment dans les centres de recherche scientifique, commencent au cours des années 70 à remettre en cause ce modèle d'une informatique centralisée et taylorienne. Et ce qui s'affirme, c'est ce qu'on a appelé l'informatique transactionnelle. Une informatique qui est à la fois interactive, depuis les ordinateurs temps réel, avec les ordinateurs temps réel, avec l'expansion et la conquête de marchés nouveaux par les mini-ordinateurs, Digital Equipment en premier, mais d'autres aussi, Nixdorf, Intertechnique en France, etc., Télémécanique, des ordinateurs temps réel qui ont été développés au début dans le milieu de l'automation industrielle, mais qu'ensuite on adapte au marché de la gestion. Et donc, ils commencent à manger des marchés sur les grands constructeurs traditionnels, parce qu'on s'aperçoit que des ordinateurs interactifs temps réel peuvent être bien intéressants pour des utilisateurs qui ne sont pas des informaticiens. Et c'est en même temps le développement d'une informatique personnelle. On a vu tout à l'heure la calculette HP65, mais c'est surtout une informatique personnelle grâce aux mini-ordinateurs qui peuvent être installés dans un bureau, dans un petit centre de calcul et qui peuvent être appropriés par un utilisateur. Et le phénomène va s'amplifier ensuite avec les micro-ordinateurs. L'informatique personnelle qui s'est développée bien avant, dès la seconde moitié des années 60, avec le time-sharing. Une console de time-sharing, c'est un contact direct entre un utilisateur et l'ordinateur, même si, en fait, l'ordinateur est partagé par d'autres clients. Et cette informatique transactionnelle, interactive, éventuellement personnelle, commence à bousculer sérieusement les grands constructeurs établis. Et dans l'ordre de classement des chiffres d'affaires, Digital Equipment se hisse progressivement au deuxième rang mondial après IBM au cours des années 70. Et cette informatique transactionnelle va obliger les grands constructeurs établis à réagir en développant eux-mêmes des mini-ordinateurs puis des micros. Et ils le font tous, IBM en premier avec sa série IBM 3, mais ces nouveaux produits, ces nouvelles lignes de produits correspondent mal à leur culture professionnelle, à leur savoir-faire, à leur modèle économique. Et en fait, ces nouvelles lignes de produits, ces mini, bientôt ces micros, vont se trouver en concurrence interne avec les produits qui restent au cœur de la gamme des grands constructeurs. IBM résistera assez bien au choc des mini-ordinateurs, mais ne saura pas garder le contrôle des micro-ordinateurs et laissera, pour l'essentiel, l'initiative des innovations et du rythme de l'innovation à, d'une part, Microsoft pour le logiciel et à Intel pour les composants. Et on a parlé depuis les années 90 de la domination de Wintel, c'est-à-dire des micro-ordinateurs PC et de leurs clones, par Windows et par les composants Intel. Donc la vraie révolution est là, puisque IBM n'est plus aujourd'hui qu'un concurrent parmi d'autres, loin derrière Microsoft et Intel. J'ai dit tout à l'heure que des premiers centres de calcul où on avait construit les premiers ordinateurs s'étaient dégagés des enseignements, des formations et des activités de recherche. Recherche sur les méthodes de calcul, recherche sur les structures d'ordinateurs et de circuits, recherche sur la programmation et les langages, et plus tardivement sur la théorie des automates, l'algèbre, etc. Cette émergence d'une recherche en informatique donne lieu à des controverses au milieu des années 60. Premier type de controverse, de conflit, c'est le problème des services de calcul. Au milieu des années 60, les clients commencent à se plaindre, les clients, c'est-à-dire les autres scientifiques, les physiciens qui font du calcul à façon dans ces centres de calcul, se plaignent. On voit dans les archives des paquets de lettres qui arrivent des physiciens, des chimistes, etc., disant le service de calcul marche mal, la moitié des ingénieurs, au lieu de programmer nos calculs, sont dans leur coin en train de faire des recherches absconses sur les langages qui ne nous intéressent pas du tout. Nous, on en veut pour notre argent, et si le CNRS ou l'université ou la National Science Foundation continuent à financer ce centre de calcul, il faudrait exiger que les gens fassent leur travail. Et donc, c'est tout le problème de l'émergence d'une contestable ou contestée d'une recherche dans des services. Et la deuxième controverse concerne le problème de la représentation de l'informatique dans les instances d'évaluation et le problème de la définition de cursus universitaire nouveau et de diplôme, bref, de la reconnaissance ou non d'une science nouvelle. Alors, un bon moyen d'étudier l'histoire d'une science est d'examiner ce qu'on pourrait appeler ses agendas. C'est pas un agenda au sens de, du petit calepin où on écrit ce qu'on a à faire, mais c'est quand même un peu la même chose, ça a la même racine, enfin, c'est une racine latine, c'est agenda, ce qu'il faut faire. Le programme de travail et d'action. L'agenda d'un domaine scientifique est constitué par l'ensemble de ce qu'il faudrait faire, selon ses praticiens. Cet agenda est constitué par un consensus sur les problèmes essentiels du domaine, par leur ordre d'importance et de priorité, par les moyens de résoudre ces problèmes, et éventuellement par les pistes ou les solutions qu'entrevoient les praticiens, qu'entrevoient les gens qui ont le plus d'expérience dans ce domaine. Et donc, l'état d'un domaine scientifique, son statut, peut être approximativement mesuré par son aptitude à établir son propre agenda de recherche. Les nouvelles disciplines émergent en acquérant cette aptitude à établir un agenda de recherche. Et en contrepartie, les conflits au sein d'une discipline naissent souvent des désaccords au sujet de l'agenda de recherche ou des agendas. Quels problèmes sont les plus importants? Alors, l'informatique s'est développée entre 1950 et 1975. Informatique théorique s'est développée entre 1955 et 1975. En 1955, il y a des premiers pas, des initiatives individuelles, non visibles ou peu visibles. En 1975, on peut dire en général que l'existence d'une science informatique est assez généralement admise. Pas unanimement admise, certainement pas, mais elle s'impose et cela se voit au niveau institutionnel. Partout dans le monde, il y a des comités, des commissions de sciences informatiques, que ce soit à la NSF depuis 1969, au CNRS cette année-là, en 1975. Et des scientifiques des différentes disciplines ont convergé au cours des années 70 vers un ensemble assez cohérent d'agenda, donc, de programmes de recherche qui ont constitué le noyau du domaine autour de notions comme les automates et les langages formels, la complexité computationnelle ou combinatoire, la sémantique formelle, etc. Vous avez d'une part trois grands centres qui se sont développés dès le début des années 50, donc, qui ont développé concomitamment des centres de calcul, des recherches, des enseignements, dès le début des années 50, c'est Grenoble, Toulouse, Paris. S'y sont ajoutés des centres secondaires au début des années 60, c'est Lille, Nancy, et puis rien d'autre, Lille, Nancy, et beaucoup plus tard, quand les grands centres pionniers n'ont plus pu absorber tous les diplômés qu'ils ont formés, il y a eu des SMH qui sont partis créer des laboratoires d'informatique dans des villes qui jusque-là n'en avaient pas. Et ça, c'est caractéristique de la décennie 70, fin des années 60 et décennie 70, c'est la création de la recherche en informatique à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, hein, à Aix. C'est le réseau Cyclade qui est conçu à la C2I et à l'INRIA, à l'IRIA, à l'Institut de recherche en informatique et en automatique. Donc ce réseau Cyclade commence par rejoindre les grands centres, donc Paris, Grenoble, Toulouse, et s'étend rapidement vers Rennes. Ça, c'est le résultat direct d'une politique de décentralisation, installer un maximum de recherche sur les télécoms et sur l'électronique à Rennes. Et puis, peu à peu, il s'étend, en quelques années, vers Lyon. Et puis, soudain, il s'arrête. Il ne devient pas Internet. Le réseau Cyclade ne connaît pas une croissance parallèle à celle d'ARPANET aux États-Unis parce qu'il est tué, en 1976, par un réseau concurrent qui est Transpac. Et ceci reflète le rapport de force à l'époque entre le monde des télécommunicants et le monde de l'informatique. Les grandes industries des télécommunications, Thomson et surtout CGE, ont un poids économique et politique sans commune mesure avec celui des informaticiens. Et la même année, ces grands industriels des télécommunications ont la peau, obtiennent la peau à la fois du réseau Cyclade
et du plan calcul. Et ceci nous renvoie ensuite à une reprise de ce type de réseau au milieu des années 80 ou 90.